Mai 83, Rimont.
Vous disiez donc la dernière fois que la position de Plotin à l'égard de l'un est particulièrement importante pour nous, parce que c'est le théologien par excellence de l'un et du rapport de l'un et du multiple. Alors, n'oubliez pas cette petite comparaison qu'il donne. On peut comparer l'un à la lumière, l'être qui vient après lui au soleil, et le troisième à la lune. C'est évidemment une analogie métaphorique, mais dans le langage des néoplatoniciens, vous savez bien qu'on ne peut pas faire la distinction entre l'analogie propre et l'analogie métaphorique. Donc, c'est pour ça que c'est particulièrement important. L'un fournit à l'intelligence la lumière. Il est lumière, une lumière simple qui donne à l'intelligence le pouvoir d'être ce qu'elle est. Qu'elle est source, non seulement de l'être, mais source de l'intelligence. Il y a autour de l'un un rayonnement qui vient de lui qui reste immobile, comme la lumière, resplendissante, qui environne le soleil, naît de lui. Le soleil naît de lui. Ce sont toutes des expressions, je vous en renvoie pas les références, mais il est raisonnable, dit encore Plotin, d'admettre que l'acte qui émane en quelque sorte de l'un. Alors c'est ça qui est particulièrement intéressant à souligner. L'un est au-delà de l'ousia, l'un est au-delà de l'acte. Donc, il est raisonnable d'admettre que l'acte qui émane en quelque sorte de l'un est comme la lumière qui émane du soleil. Toute la nature intelligible est une lumière. Debout au sommet de l'intelligible, et au-dessus de lui règne l'un. L'un est au-delà de tout le domaine de l'intelligible. Qui ne pousse pas hors de lui la lumière qui rayonne. Nous admettons que l'un est, avant la lumière, une autre lumière qui rayonne sur l'intelligible en restant immobile. Donc ce passage très important, Ennéade 5, 3, 12, 40, 45. C'est intéressant à cause du lien entre l'un et l'acte, et de comprendre comment l'un est source de l'acte, Energeia. L'Energeia émane de l'un. L'un n'est pas du tout, et on comprend, puisque l'acte est au niveau de l'être, et que l'un est au niveau de, est au-delà de l'être. Et il est toujours dans votre vue, n'est-ce pas, avec le plotin, la trilogie. L'un, le nous, l'intelligence, et puis l'âme. La trinité plotinienne. La trinité plotinienne, elle implique une émanation. Elle implique un retour, les deux mouvements constants de l'un vers l'autre. Alors l'un est source du multiple. Le premier multiple, c'est la diable. C'est le deux. Le nous, c'est toujours deux, parce qu'au niveau du nous, il y a l'intelligence et les intelligibles. Tout ça peut être l'intelligence sans les intelligibles, donc il y a la diable. Et l'intelligence et le nous impliquent le produit de diable. Et nous avons donc la lumière. Et vous voyez, ce passage nous dit que l'un est d'une certaine manière au-delà de la lumière. Parce que la lumière, vous pouvez la comprendre de deux manières. Vous pouvez comprendre la lumière présente dans les intelligibles, alors vous avez le soleil. Et vous pouvez comprendre ce qui est sous la lumière, l'un. Et vous voyez, il n'aimera pas de dire que l'un vient de la lumière, c'est une comparaison. L'un est au-delà de la lumière. Ça, c'est très très significatif, on voit très bien, c'est gênant, hein. À la fois c'est lumière, et en même temps c'est au-delà de la lumière. Et on comprend très bien que l'un est au-delà de la lumière, parce que les intelligibles représentent la lumière. Ils sont la lumière, ils sont capables d'informer le nous, et de déterminer le nous. Et alors l'un, lumière est au-delà.
et la lune s'élargit avant la comparaison des trois. Et alors vous voyez le passage de l'un vers le nous, l'acte. L'acte est une émanation. Les énergies sont des émanations. Dans tout le langage de Palama, ce sera exactement le langage. Les énergies sont des émanations. C'est quelque chose qui émane de l'un. Et ce qui émane de l'un vous provient de nous. Donc vous avez une conception tout autre hein, de l'acte que celle d'Aristote. Il faut bien comprendre ça. L'un est donc au-delà de l'être, car il n'est pas ceci ou cela, rien ne peut être affirmé de lui. Donc, vous voyez dans la position, Dieu est amour. Hein? Dieu sans l'être. Vous voyez que vous retrouvez Plotin. Et vous regardez exactement la différence avec Plotin. Dieu est là. Donc, il est au-delà de l'être. Je ne peux pas, ce sont des positions qui ont déjà été affirmées, c'est pas original du tout ça. C'est des positions qui ont déjà été affirmées chez Plotin. Et alors c'est intéressant de voir là, rien ne peut être affirmé de lui. Ni l'être, ni l'ousia, ni la vie. Il est au-dessus de tout cela. Lui est sans quelque chose d'un. Il est sans le tien. Le tien, c'est l'étant. C'est le quelque chose d'un. Et là est au-delà, il est ce par quoi le quelque chose un est. Oui. Le ce par quoi, on voit très bien, la source de l'unité, la source de toute unité. Tout ce qui est un qui aime provient de l'un. Mais l'un est au-dessus. Lui est sans quelque chose d'un. S'il était quelque chose d'un, il ne serait pas l'un en soi. Le auto-en, ça c'est merveilleux comme formule, hein? Le auto-en, c'est le en qui circule par lui-même. Hein? On a ce mot, l'auto-en. Chez Plotin, ce mot, nous mettrions nous comme ça. Hein? L'un qui est auto. Il est par lui, il est en lui. Donc, il ne serait pas l'un en soi, il est antérieur au qui. Pro-tout-qui. C'est une formule merveilleuse. Il est antérieur, il est avant le qui. Donc, il n'est pas le qui, on comprend très bien. Qui, tout à fait actuel. Titi, hein. Vous êtes en face des Grecs qui vous disent ti. Qu'est-ce que c'est, toi, qu'est-ce que c'est le qui? Alors, le quelque chose, quelqu'un, quelque chose, alors, il est avant, il est trop, il est avant le qui. Parce que le qui, c'est déjà la détermination, et la détermination implique nécessairement quelque chose qui est un étant. L'étant, c'est le qui, dans le langage intégrien. C'est le qui. C'est intéressant parce qu'on voit combien ça a marqué, ça marque l'intelligence. La plupart des intelligences sont néoplatoniciennes. Hein. On se corrige de tas de choses, mais se corriger du néoplatonisme, c'est très 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 difficile. Parce que c'est tellement inscrit en nous, hein, dans notre monde d'aujourd'hui. Vous voyez, le langage heideggerien reflète toute une emprise néoplatonicienne. L'un, s'il est au-delà de tout intelligible, s'il est au-delà de la pensée et de l'intelligence, a cependant une certaine conception tout à fait propre de lui-même, une compréhension, une catanoésis, qui est comme une sympathie qui est lui-même, et qui consiste en un repos éternel. Ça, c'est très difficile, vous voyez, à comprendre. C'est pas l'activité de l'un, qu'est-ce que c'est que l'un? Si vous le purifiez complètement, alors ça devient négatif. Celui qui n'implique aucune négation. Là. Qu'est-ce que c'est que cette auto-haine? Cette espèce de réduplication, parce que c'est une réduplication sur lui-même. Il se réduplique sur lui. Et alors c'est pour ça qu'il dit c'est pour ça qu'il y a cette affirmation très curieuse, enfin, de dire les catanoésis.
Il est une compréhension qui est comme une sympathie qui est lui-même et qui consiste en un repos éternel. Le silence, l'un c'est le silence, l'un c'est le repos, c'est ce qu'il dira. Il s'agit d'une pensée différente de la pensée de l'intelligence. Alors on est une méta-pensée. J'avais en face une méta-pensée puisque c'est une kata-noésis. Alors kata-noésis, une noésis au-delà, au-delà de tout ce que nous pouvons dire. Autrement dit, on ne peut plus rien dire, quoi. Et c'est vrai, on ne peut plus rien dire de l'un, parce que vous ne pouvez rien attribuer à l'un. Il est purement négatif. Je crois, vous voyez, le primat de la négation, hein, le primat de la négation, c'est que vous voulez affirmer l'au-delà de toute détermination, vous n'avez pas compris que l'être était au-delà de toute la détermination. C'est pourquoi Platon dira que l'un ne se pense pas, ne se connaît pas lui-même. On peut dire l'un ou l'autre. Il y a une compréhension de l'un, et il ne se pense pas. Parce que la pensée de l'un n'est pas la pensée de l'intelligence. Alors, comprenez, hein ? L'au-delà de la pensée. Alors, qu'est-ce que c'est que l'au-delà de la pensée ? Quand Heidegger dit qu'on ne pense pas l'être, il n'y a pas de concept de l'être. On ne conçoit pas l'être, mais on le pense. C'est la même chose. Vous avez quelque chose qui est tout à fait analogue. Essayez de comprendre ce qui est à la racine. Là, c'est une sympathie. C'est cet appétit premier qui consiste à être lié à quelque chose d'autre. La pensée n'est pas en lui, mais il y a en lui comme une sympathie de lui-même qui est au-delà de la pensée. Aussi, pour que l'intelligence le saisisse, faut-il écarter tout intelligible, abandonner tout intelligible et contempler cet un qui est en lui-même comme à l'intérieur d'un sanctuaire, le Saint des Saints, et qui reste immobile au-delà de tout. Mais alors on prend des comparaisons religieuses au sanctuaire. En effet, par quelle sorte d'impression pouvons-nous saisir d'un coup ce qui dépasse la nature de l'intelligence ? Par ce qui, en nous, est semblable à ce principe. Comment se fait-il que je puis parler de l'un ? Moi qui suis complexe, moi qui suis multiple. Ah, c'est parce qu'il y a la trace de l'un jusque en moi. L'un demeure jusqu'au bout, c'est pour ça que je peux en parler. Alors je vous lis ce passage encore, c'est Eméade 3, 8, 9, 20, 28. Car il y a en nous quelque chose de lui, ou plutôt, il n'y a pas de lieu où il ne soit, pour les êtres qui peuvent participer de lui. Je participe de l'un. Si je ne participais pas de l'un, je n'existerais pas. L'être, c'est la participation la plus pure de l'un. C'est ça, l'être. C'est la participation la plus pure de l'un. Et donc, il y a la trace de l'un dans l'être. Il n'y a pas de lieu où il ne soit pour les êtres qui peuvent participer de lui. Et puisqu'il est partout, il n'y a pas d'endroit où nous ne puissions tenir quelque chose de lui, en lui présentant ce qui, en nous, est capable de le recevoir. Il est comme un son qui remplit le silence de l'espace. Tout homme qui prête l'oreille en un point quelconque de cet espace recevra le son tout entier, bien que, en un autre sens, il ne le reçoive pas tout entier, puisqu'il le participe. Je ne reçois pas tout l'un, mais je participe à l'un. C'est difficile à saisir, hein. C'est très très difficile à saisir, mais c'est quand même cette espèce d'effort, c'est beau, attitude mystique poussée à l'extrême, hein. L'un est ineffable et n'a pas de nom, il a quand même un nom parce qu'on dit que c'est l'un, mais l'un est ineffable et n'a pas de nom. Ce qui est au-delà de la véritable intelligence, ce qui est au-delà de la vérité, qui est en toute chose, n'a pas de nom. Car ce nom serait autre chose que lui. Il n'a pas de nom parce que rien ne se dit de lui comme d'un sujet. Il n'est pas sujet. Il n'est pas objet parce qu'il n'est pas intelligible. Donc il est au-delà de l'objet du sujet. Non. Mais la distinction sujet-objet est dépassée. Ce qu'il y a de plus grand après l'un, c'est l'intelligence, le nous. L'intelligence est une image, elle icona, c'est une icône de l'un. Donc l'intelligence est une icône de l'un. Pour parler plus clairement, Platon fait cela, d'abord, il faut que l'engendré soit en quelque manière semblable à l'un, qu'il conserve bien les caractères de l'un, qu'il y ait en lui, qu'il y ait entre lui et l'un, la ressemblance qu'il y a entre la lumière et le soleil. Mais l'un n'est pas l'intelligence, n'est pas intelligence. Comment donc engendrerait-il l'intelligence ? Parce qu'il voit, en se tournant vers lui-même, et cette vision est l'intelligence. Ça, c'est très important de bien saisir ça, parce que c'est peut-être là le secret. Comment de l'un provient le nous ? Comment provient de l'ous ? Parce qu'il voit, en se tournant vers lui, il se tourne vers lui, il est auto-haine. Donc il subsiste en lui. Donc en subsistant, il se tourne vers lui. Parce qu'il voit en se tournant vers lui-même, et cette vision est l'intelligence. La vision qui provient de l'un, qui se tourne sur lui, c'est l'intelligence. Mais l'intelligence n'est pas là. Dans l'intelligence aussi, il y a unité. Mais l'un est puissance productrice de toute chose. Donc, dans le nous, il y a participation de l'un, le nous, qui est au même niveau que l'être, hein, qui est au même niveau des intelligibles, qui font l'unité. Il y a une identité entre les deux. Il y a une unité entre les deux. Mais à l'intérieur du nous, il y a donc un reflet, une participation. Alors, vous voyez comme c'est intéressant. C'est pas la causalité, c'est la participation. Donc, c'est très net. Jamais que dit productrice, oui. Mais au fond, c'est une participation. La participation permet le glissement. Ce que ne permet pas la causalité. On glisse, on émane, l'émanation. C'est quelque chose qui est beaucoup plus flanc, beaucoup plus difficile à préciser. Alors, de l'un, il y a émanation vers le nous. Il y a émanation. Vers le nous et vers l'être, vers l'intelligible. Tout provient de là. Et l'un est au-dessus. Elle ne dit pas causalité. Alors vous voyez que c'est intéressant parce que ça nous fait comprendre comment, dans la perspective de Plotin, la participation est au-dessus de la causalité. Et vous verrez la même chose quand Aristote dira que l'arché, donc le principe, est au-delà de la cause. Aristote n'hésite pas de dire que le principe est au-delà de la cause. Ce qui permet à saint Thomas théologien de dire que Dieu est, de dire que le Père est principe du Fils, mais il n'est pas cause. Alors, vous voyez quelque chose d'analogue ici. Là, le principe du nous, mais ce n'est pas cause, au sens strict. Vous voyez donc que la différence entre le principe et la cause, c'est que le principe est au-delà de la causalité. Alors, c'est la question de savoir si la participation est au-delà de la causalité. Ça, il faut se poser la question, il faut la poser profondément, tant qu'on l'a pas résolue, on ne voit pas la différence exacte entre le point de vue d'aristotélisme et du Platon. Je ne dis pas que le Fils, dans la très simple unité, participe du Père. Mais je dis que le Père est principe du Fils. Donc, saint Thomas arrive au-delà du platonisme, et c'est l'endroit qui n'est pas platonicien, il dit au platonicien, il arrive au-delà du platonisme, grâce à Aristote, à préciser un principe qui n'est pas source de participation. Qui est source d'ordre. Ça, il faut arriver à distinguer ça. C'est subtil, hein. Je le dis ici parce que c'est un lieu très, très important. Plotin est quand même une clé, hein. C'est très très important, Plotin. Il ne perd pas son temps à travailler Plotin. Et à travailler avec intelligence. C'est très séduisant, hein, c'est très très séduisant. Si j'étais Platonien, tout le monde accepterait cette métaphysique de Platon. Tout le monde accepterait. Même les Hegeliens, même les anciens. Je me souviens très bien qu'en faisant la cour à Fribourg sur Platon, il y avait ce monsieur Socrétin qui était dans l'auditoire, qui suivait le cours, il m'a dit à la fin du cours, mais comme c'est Hegelien.
Ah, j'ai un pardon. C'est pas égayé. Platin n'est pas, elle peut pas ramener Clopin à Hegel. C'est tout à fait autre chose. Mais c'est très vrai. C'est très vrai que si je suis Plotinien, je suis facilement égayé. Passage entre les deux, l'aspect de la dialectique et la participation, vous savez, c'est pas commode du tout à distinguer. Tandis que dès que je suis, dès qu'on comprend l'aristotélisme, c'est différent. Alors je voyais que c'est intéressant à saisir ça, au point de vue. Alors, avant de voir la position d'Aristote, je crois qu'il est quand même intéressant de souligner que cette position plotinienne a joué un rôle extrêmement important dans toute la théologie chrétienne. Ça, elle a été assumée. Comme il y a un baptême d'Aristote, il y a un baptême de Plotin, tu vois. Mais le baptême de Plotin, il va beaucoup plus loin, d'une certaine manière. Et ça, c'est sûr que nous retrouvons constamment cette question de l'un comme primat de l'un. Alors, il faudrait saisir l'importance de ce primat de l'un dans toute une perspective philosophique. Ce serait la philosophie de Nicolas de Cuse. La philosophie de... Je ne vais pas entrer dans la philosophie de Nicolas de Cuse parce que Plotin est intelligible, Nicolas de Cuse, alors c'est plus intelligible du tout. Après le baptême, c'est plus intelligible. Parce que je crois qu'on n'en est scapax. Alors c'est plus intelligible. Mais c'est intéressant de se rappeler que Nicolas de Cuse, c'est quand même un... Il était cardinal, hein. Il était cardinal, Nicolas de Cuse. C'est pas parce qu'il était cardinal que, de fait, il nous donne une bonne théologie. Mais l'exaltation de l'un au-dessus de l'être conduit Nicolas de Cuse à affirmer le primat de la négation. Alors je vous lis seulement ce texte, pour que vous ayez au moins entendu dans votre vie un texte de Nicolas de Cuse. Avant donc ce monde et le multiple, multa, il faut poser ce principe qui est non multiple, comme avant l'être, le non-être, et avant l'intelligible, le non-intelligible. Et d'une manière générale, avant tout disciple, l'ineffable. La négation, c'est très intéressant, parce que c'est un passage extrêmement intéressant pour Plotin Nicolas de Cuse. C'est quelque chose qui nous fait... Il va pousser, il va dire, Plotin dirait ça. Vous voyez ? Alors, on substantifie la négation. Alors, on a là. C'est le défaut des théologiens, ils substantifient tout. La négation est donc le principe de toute affirmation. Avant l'affirmation, il y a la négation. La négation est donc le principe de toute affirmation, car le principe n'est rien des principés. Les principés, c'est ce qu'on affirme sur les étangs, dans un langage heideggerien. La négation est donc le principe de toute affirmation, car le principe n'est rien des principiés. Mais puisque tout causé, alors voyez là, les principiés, les causés, ça vient au même, mais puisque tout causé est plus vrai dans sa cause qu'en lui-même, l'affirmation est donc meilleure dans la négation, puisque la négation est son principe. Ça, c'est merveilleux. Extraordinaire, ça c'est génial, hein, on dirait aujourd'hui, c'est génial de dire ça. Et c'est très vrai, le principe de le causé est meilleur dans sa cause que dans son causé. Bien évident, l'étant est mieux dans l'être que dans l'étant. Donc le principe est mieux dans sa cause qu'en lui-même. Alors donc, l'affirmation est meilleure dans la négation, puisque la négation est son principe. Le principe est donc également antérieur au maximum ou au minimum de toute affirmation. Et ainsi, le non-être est principe de l'être. Alors, on rejoint ce qu'Aristote disait, vous savez, à propos des Ioniques. Aristote dit, les théologiens qui mettent le non-être avant l'être. C'est exactement Nicolas de Cuse après Aristote. Les théologiens qui mettent le non-être avant l'être. Le principe est donc également antérieur au maximum et au minimum de toute affirmation. Et ainsi, le non-être est principe de l'être. Il précède donc l'être, puisqu'il est à la fois être au maximum et être au minimum. ou non-être, parce que être au maximum. Vous voyez ça dans Nicolas de Cus, si vous voulez vous amuser, Nicolas. Ne lisez pas trop Nicolas de Cus. N'en lisez pas trop, mais c'est intéressant quand même de comprendre un tout petit peu ce que représente cette transposition en terre chrétienne du platonisme poussé à l'extrême. C'est du platonisme poussé à l'extrême. En réalité, ce principe-là, c'est plus Nicolas de Cus, mais en réalité, ce principe qu'il est ni multipliable, ni altérable, ni participable, parce qu'il est éternité, et même antérieur à l'opposition du maximum et du minimum, il est ineffablement en-dessus de tous les opposés et de tout ce qui peut être dit. Donc il est ineffabilitaire. Hein. Et on ne devrait même pas l'appeler principe. Ça, c'est Nicolas de Cus qui dit ça. On ne devrait même pas l'appeler principe. Parce que principe, c'est affirmatif. Or, la négation est avant le principe, l'affirmation. Donc, vous êtes coincé. Et vous comprenez très bien pourquoi vous êtes coincé. Parce que votre langage est au niveau des étangs. Donc, il faut un métalangage. Et un métalangage, c'est justement de supprimer le langage. Et c'est très facilement, vous voyez, un peu l'absurdité de ces gens. Parce qu'il y a quand même quelque chose un peu d'absurde là-dedans. N'est-ce pas ? C'est un peu absurde de qu'il y ait un dépassement de toutes les déterminations. On est tout à fait d'accord. Mais comme on identifie être et détermination, comme on identifie affirmation et détermination, il faut donc affirmer quelque chose qui est antérieur à toute détermination. On est tous d'accord, hein, qu'avant les catégories, il y a l'être. Et l'être n'est pas une catégorie. L'être n'est pas une détermination, puisqu'il est aussi acte. Mais comme c'est important de saisir l'acte, pour saisir que l'être est au-delà de toutes les déterminations. Une fois que j'ai saisi que l'être est acte, ce qui manque à tous ces philosophes, c'est de saisir l'être acte. Alors ne saisissant pas ça, nécessairement l'être est identifié à la détermination. Et si l'être est identifié à la détermination, c'est évident qu'à partir de ce moment-là, la négation est avant l'affirmation. Mais ils ne voient pas qu'en disant ça, ils se contredisent eux-mêmes. Ils devraient se taire. Ils devraient se taire, parce qu'ils affirment que l'affirmation, qu'ils affirment que la négation est avant l'affirmation. Ils l'affirment ça. Donc ils sont eux-mêmes, voyez, en contradiction avec eux-mêmes. Et cependant, on doit dire qu'il embrasse l'être et le non-être. Donc le principe, il est au-delà de l'être et du non-être. Car il est ou n'est pas du tout ce qu'on peut dire ou penser. Absolue égalité d'être et de non-être. Absolue égalité d'être et de non-être. Il n'est pas participable, puisque le participant est autre que le participé. Et donc l'égalité qui n'est pas participable, contrairement dans un autre, n'est pas l'égalité qui est le principe super exalté, au-dessus de l'égal et de l'inégal. Voilà Dieu. Ça c'est de lui, hein, ce petit passage. Absolue égalité d'être et de non-être. Donc le principe est absolue égalité d'être et non-être. Au-dessus de la distinction être et non-être, absolue égalité. Il n'est pas participable puisque le participant est autre que le participé. Et donc l'égalité qui n'est pas participable qu'autrement dans un autre n'est pas l'égalité qui est le principe super exalté au-dessus de l'égal et de l'inégal. Parce que si vous dites égal, ça prouve que c'est déjà égal et inégal. Alors il est au-dessus de l'égal et inégal, donc il n'est pas égal, puisqu'il est au-dessus. Autrement, ça ne dirait pas. Comme il ne peut pas être être, parce qu'autrement, alors, il y a être et non-être. Alors, vous arrivez donc à nier tout ce que vous pouvez dire pour dire qu'il y a quelque chose qui est au-dessus et qui est au-delà de toutes les choses, d'où la négation, et la négation qui est au-dessus de tout. Donc je crois que là, c'est intéressant à voir sur ce point de vue-là. Nous allons, je pense, il y aurait le point de vue de l'un aussi qui est repris dans la philosophie contemporaine. Et ça, je crois que c'est important au moins de le souligner dans ce que représente la recherche philosophique phénoménologie, parce que dans la phénoménologie on retrouvera ces choses-là, mais c'est pas, c'est dans la phénoménologie telle que va l'affirmer le point de vue de certains qui vont essayer de trouver en Dieu, non pas l'être, mais l'un. L'un étant considéré pour eux comme quelque chose de plus profond que va le point de vue de l'être. Alors vous avez à ce moment-là, dans la perspective phénoménologique, le point de vue de certains qui vont essayer de trouver en Dieu non pas l'être, mais l'un. L'un étant considéré pour eux comme quelque chose de plus profond que va le point de vue de l'être. Alors vous avez à ce moment-là, dans la perspective phénoménologique, une espèce de désir de trouver quelque chose qui est au-delà de tout et qui va être proprement cette manière de saisir. Là, vous auriez ça dans la philosophie de Henri Duméry. Mais Plotin, Nicolas de Cuse, Duméry. Vous avez les trois qui, au fond, sont les plus saisis par ce point de vue de l'un. Chez Henri Duméry, le problème de l'un plotinien est repris à travers la méthode phénoménologique husserlienne. Et au-delà d'elle, c'est le dépassement de la méthode phénoménologique husserlienne par le point de vue de l'un. Il s'agit d'une réduction suprême, une réduction qui revient à dégager l'un dans une simplicité absolue, dans une spontanéité vraiment radicale qui dépasse tout ensemble l'être et l'essence. Donc ça, c'est la, j'allais dire, le dernier grand du point de vue de l'un. Mais c'est important de voir qu'il y a là quelque chose qui demeure tout le temps. Hein. Vous, je prends là les sommets, mais alors il y aurait toutes les intermédiaires, parce que l'un, au point de vue de la critique, c'est quelque chose de premier. Je crois que la critique est commandée par l'un. Elle n'est pas commandée par l'être, elle est commandée par l'un. La critique recherche l'unité. Et toute pensée critique recherche l'unité, avant tout. Alors vous retrouvez, vous voyez, quelque chose de très fondamental, parce qu'on va essayer de le comprendre, parce que c'est intéressant de voir pourquoi il y a cela. C'est quand même quelque chose, ils vont, je n'ai pas le droit de dire, ils se sont trompés, puis c'est tout. Non, ils expriment quelque chose d'intéressant. Ils expriment quelque chose d'intéressant parce qu'ils expriment comme une espèce d'appétit de l'intelligence. L'intelligence ou se tourne vers la vérité, ou se tourne vers l'un. Et l'intelligence, quand elle réduplique sur elle-même, dans une attitude critique, cherche plus l'un que la vérité. Parce que la vérité est au niveau de l'intelligence. L'un est au-delà. Et alors une intelligence hypercritique recherche l'un. L'indivisibilité. Ça, c'est une chose importante à saisir. Alors, un mot sur Aristote maintenant. Nous revenons à Aristote, si vous voulez, comme position philosophique très intéressante et importante. Et à partir de là, nous essaierons nous-mêmes d'essayer de préciser ce que ça représente. Pour Aristote, la recherche de l'un est une recherche parallèle à celle de l'être.
Donc Aristote, délibérément, et quand je veux regarder la différence entre Aristote et Platon, je vous ai dit, il y a quelques lieux très importants pour bien saisir la différence. C'est la question du bien que nous l'avions vu en éthique. Et puis c'est la question de l'un. Puisque pour Platon, bien et un dépassent tout, Aristote va relativiser la pensée de Platon en mettant l'un à côté de l'être. Donc l'un va être relativisé par rapport à l'être, l'un est à côté de l'être. Le bien est-il à côté de l'être? Mais c'est ça qui est intéressant à voir, parce que c'est quand même très très astucieux. Platon met l'un et le bien au-dessus de tout. Aristote dit non. Mais il va donner un sort différent au bien et à l'un. Le bien n'est pas acolyte de l'être, puisque le bien va être convertible avec l'être, et le bien va dépasser l'être du côté de la causalité. Tandis qu'Aristote ne dit pas que l'un dépasse l'être du côté de la participation. Il aurait pu le dire. Ça aurait été une autre philosophie. S'il ne le dit pas, c'est parce qu'il tombe que ce n'est pas la vérité. Mais je peux très bien, si vous voulez faire quelque chose d'intéressant, d'original, de nouveau, faites ça. Vous voyez, et ce serait très intéressant à voir, un petit développement intéressant à préciser. Oui, je vais mettre au-dessus de tout, très bien. Et je dis que le bien, convertible avec l'être, je dis même que, au point de vue de l'intelligibilité, l'être est avant le bien. Vous vous souvenez de cette petite perspective de saint Thomas qui est très intéressante de comparer l'être par rapport au bien, quand saint Thomas dit que la ratio est nihilis. Saint Thomas dit ça en précisant la pensée d'Aristote, en fond c'est rigoureusement la pensée d'Aristote, hein, en disant que la ratio nihilis est première par rapport à la ratio boni, quand il s'agit de l'intelligibilité. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de la causalité, la ratio boni est première par rapport à la ratio nihilis qui se trouve. Donc, l'être est relativisé du côté de la causalité, et l'être est même premier du côté de l'intelligibilité. Comment, hein, bien saisir ça? Ça, c'est capital, hein, si on bien saisir ce point de vue-là. Ça, c'est le point de vue d'Aristote, hein. C'est Aristote qui a vu, par rapport à Platon, qui exaltait le bien au-delà de l'être, Aristote a saisi que, du côté de la science, qui cherche toujours l'intelligibilité, l'être est premier, et le bien est relatif à l'être. Donc, il n'y a pas de métaphysique du bien au-delà de l'être. Ce que Platon a voulu. Mais du côté de la causalité, c'est-à-dire du côté de mes opérations, le bien est premier. Donc il y a une éthique distincte de la métaphysique. Il n'y aurait pas d'éthique distincte de la métaphysique si le bien est entièrement relatif. Mais il y a une éthique distincte de la métaphysique, et c'est pour ça que jamais la métaphysique ne remplacera l'éthique. Jamais. Parce que, de fait, le bien a une priorité du côté de la causalité. Du côté de la causalité, le bien est premier. Avant de la causalité. Alors, est-ce que je pourrais pas dire quelque chose d'analogue, hein, du côté de l'être, du côté de l'un? À dire, mais oui. Là, du côté de la réalité, c'est vrai. Il n'y a pas de métaphysique de l'un. Il y a une métaphysique de l'être, du côté de l'un. Mais l'un est premier du côté de la participation. Le bien est premier du côté de la causalité. Et que la participation et la causalité sont distinctes. Alors ne puis-je pas dire que l'un est premier du côté de la participation? Je vous laisse résoudre le problème. C'est intéressant de se le poser. Parce que de fait, on pourrait se poser. Quand on dit toujours Saint Thomas est le catholicien,
Ah, si saint Thérèse le platonicien, l'un, ben oui, l'un est premier, il est premier dans l'ordre de la participation, ça c'est net. Ça, on ne peut pas nier ça. Il est premier dans l'ordre de la participation. Alors, reconnaissons que l'un est premier dans l'ordre de la participation. Si l'un est premier dans l'ordre de la participation, il faudra donc que la critique soit distincte de la métaphysique. Comme l'éthique est distincte de la métaphysique. Vous voyez le raisonnement, j'espère. Je reprends. C'est important, c'est pour toujours essayer de comprendre le génie d'Aristote et le génie de Platon. De comprendre le génie de platonicien et le génie aristotélicien. Il faut tout le temps les voir l'un à côté de l'autre. Hein. La rivalité constante entre les deux. Et alors cette rivalité nous aide à comprendre, parce que nous avons besoin de, toujours, nous avons besoin de comparer. Si nous ne comparons pas au niveau de notre intelligence, nous n'arrivons pas, notre cœur ne compare pas, mais notre intelligence compare. Nous avons deux yeux pour voir, hein. Ah, c'est bien évident. C'est avec le cyclope qui n'a qu'un œil, tu vois. Alors, il y a des choses qu'il ne voit pas. Tandis que nous avons toujours ce double regard. Alors, comprenons. Chez Platon, le bien et l'âme sont au-delà de l'être. Nous l'avons dit. Non seulement chez Platon, mais chez Plotin. Et dans tout le néoplatonisme. C'est ça qui caractérise la pensée néoplatonienne. Et nous l'avons revu avec Nicolas de Cuse et Henri Dunéry. C'est net. Ça, je crois qu'on peut tous comprendre ça. Et on voit que mettre l'un avant l'être, c'est mettre le primat de la négation. C'est dit explicitement avec Nicolas de Cuse. C'est intéressant puisque la modernité consiste à mettre la négation avant l'affirmation. Donc la modernité provient du deuxième. Vous voyez bien, c'est impliqué dedans, et c'est impliqué de l'être l'un au-delà de l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire Aristote face à ce Platon qui met le bien et l'être, qui met le bien et l'un au-delà de l'être? Aristote dit non, au niveau de la science, science de l'être. La métaphysique au niveau science, c'est l'être. L'être est premier dans l'ordre de l'intelligibilité. C'est ce que saint Thomas reprend quand il dit que la ratio electis par rapport à la ratio boni est première dans l'ordre de l'intelligibilité. Là, saint Thomas est aristotélicien. C'est net. On ne peut pas dire ça, ce n'est pas aristotélicien. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, c'est dit. Une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas être néoplatonicien. C'est impossible. Donc Aristote maintient la science de l'être. La nouvelle science, la métaphysique, la philosophie première, donc ce qu'il y a d'ultime dans l'ordre de la pensée, c'est l'être. C'est l'être qui est ultime dans l'ordre de la pensée. Mais saint Thomas reconnaît que dans l'ordre de la causalité, le bien est premier. Si le bien est premier dans l'ordre de la causalité, il y a donc une éthique irréductible à la métaphysique. J'en parle là. Pourquoi ? Quand il s'agit de là, saint Thomas ne prend pas un raisonnement analogue. Alors que le bien et l'homme sont du côté de Platon mis parallèles. Saint Thomas n'a pas du tout la même attitude vis-à-vis de l'un, du moins Aristote n'a pas du tout la même attitude vis-à-vis de l'un que vis-à-vis du bien. Il dit que l'un est tout entier relatif à l'être. Il ne dit pas du tout que l'un du côté de la participation est premier. Pourquoi Aristote dit-il ça? Et saint Thomas dira la même chose, hein. Saint Thomas dira exactement la même chose. Et c'est très important. C'est pas du tout simplement une question de... C'est une question d'essayer de comprendre l'attitude d'Aristote face à Platon et l'attitude d'Aristote, l'attitude de saint Thomas face au néoplatonisme. De comprendre comment le bien a quelque chose d'unique comparativement à l'un. Alors que dans l'attitude néoplatonicienne, on veut les mettre ensemble. Aristote dit que l'un n'a pas de rôle dans l'ordre de la participation parce que pour lui, la participation n'a de réalité qu'en fonction de la causalité. Donc, il n'y a pas premier ou second de la participation. Et par le fait même, si la critique est orientée vers l'un,
la critique ne sera pas une science indépendante de la métaphysique. Tandis que si l'un était premier dans l'ordre de la participation, comme le bien est premier dans l'ordre de la causalité, je pourrais dire il y a une critique distincte de la métaphysique, comme l'éthique est distincte de la métaphysique.
Eh bien non.
Vous voyez, vous touchez là un problème quand même intéressant, puisqu'au fond, c'est la question de savoir si la critique est indépendante de la métaphysique. Si vous devez faire une critique avant la métaphysique, on peut faire une éthique avant la métaphysique, c'est bien évident. Alors, est-ce que vous pouvez faire une critique avant la métaphysique? Est-ce que l'un a une structure pour lui-même avant l'être? Il faut y réfléchir à ce problème-là. Bon, je continue. Voyez pas, vous essayerez de voir progressivement. Parce qu'on touche là un problème, c'est sûr, c'est difficile. Je vous l'ai dit, prendre de l'un du multiple, c'est difficile. Pour Aristote, la recherche de l'un est une recherche parallèle à celle de l'être. Car l'être et l'un sont dits le plus universellement de toutes choses. Ils sont dits l'un et l'autre semblablement. Issakos, ils sont dits semblablement. Alors, regardons les différents lieux. Dans sa philosophie première, au livre des Aporisies, Aristote se pose au sujet de l'un des questions dont il souligne qu'elles sont difficiles entre toutes. C'est intéressant qu'on voit Aristote s'est cassé les dents là-dessus. Alors, qu'elles sont difficiles entre toutes. Ce qui est plus difficile, c'est de comprendre l'un. Ce qui est plus difficile, et en même temps c'est plus simple, c'est curieux. C'est à la fois ce qui nous est donné immédiatement, et c'est plus difficile. C'est peut-être à cause de cette espèce de proximité qu'il y a de l'un et de l'autre. Et qui sont du reste reprises dans le livre Iota, qu'est-ce que c'est que l'un? Donc, on peut dire, dans les Apories, Aristote souligne la difficulté, et puis, dans le livre Iota, Aristote essaie de résoudre le problème. Comment faut-il le concevoir? Qu'est-ce que c'est que l'un et comment faut-il le concevoir? C'est intéressant de voir les deux questions. Car Aristote se trouve en présence de deux traditions, les pythagoriciens, puis Platon. L'un est comme une ousia. Pour les physiciens, l'un est plutôt attribué à quelque chose et à un sujet. Donc Aristote se trouve devant deux traditions. La tradition des physiciens, qui fait que l'un est relatif à un sujet mobile, et la tradition des pythagoriciens et de Platon, qui exalte l'un au-delà de l'être. Donc, il y a un premier lieu où on doit essayer de comprendre la pensée d'Aristote, c'est dans les Apories, et le livre Iota. On reviendra au livre Iota, parce que c'est le grand livre sur l'un. Dans le livre Gamma, examinant ce qui fait l'objet de la philosophie première, et montrant que celle-ci doit traiter de toute espèce de l'être en tant qu'être, Aristote ajoute que, puisque l'être et l'un sont corrélatifs, et se correspondent, se suivent, comme le principe et la cause, il a le terme akolutein. L'un est acolyte de l'être. Acolyte, il suit. Comme le principe et la cause, la science de l'être en tant qu'être sera aussi la science de l'un en tant qu'un. La science de l'être en tant qu'un sera la science de l'un en tant qu'un. Puisque, de fait, l'un est tout entier relatif. Mais vous voyez, Aristote ne fait qu'affirmer, hein. Il ne démontre pas, il affirme, c'est comme ça, c'est la pensée d'Aristote que j'essaie de comprendre. On essaie ensuite de comprendre, hein, mais j'essaie de voir comment délibérément, Aristote relativise l'un à l'être. Pour lui, il n'y a pas d'autre moyen de comprendre l'un que par l'être. Je ne comprends pas l'un par lui-même, je le comprends par l'être. Toute l'intelligibilité de l'un vient de l'être. Tandis que lorsqu'il s'agit du bien, il y a deux manières de le regarder. Je comprends le bien intellectuellement par l'être,
et j'aime le bien. Et en l'aimant, je m'approche de lui et j'ai une autre connaissance. Alors, est-ce qu'il y a deux connaissances de l'âme ? Non, une seule. Une seule, il n'y a pas deux connaissances de l'âme. Parce qu'on pourrait dire, j'ai une connaissance critique de l'âme. Et je sais vraiment par la critique que je comprends l'âme. Il n'y a que par la critique. C'est, la critique me dévoile l'âme, me fait comprendre ce que c'est que l'âme. Exactement comme l'amour me fait dévoiler ce que c'est que le bien. Connaître intellectuellement le bien, c'est très bien. Mais aimer le bien, c'est encore mieux. Ça dépend. Ça dépend. Dans l'ordre pratique, oui. Pas dans l'ordre spéculatif. Donc, autrement, je touche là deux choses très très importantes, l'être et le bien, pour distinguer l'ordre pratique et l'ordre spéculatif. Alors, faut-il distinguer l'ordre spéculatif et l'ordre critique ? En distinguant l'un et l'autre, en distinguant l'être et l'un. Donc, en effet, il revient au même de dire l'homme, de dire homme, ou de dire un homme, ou un homme existant. L'un n'est rien d'autre en dehors de l'être. Ça, c'est Aristote qui dit ça. L'un n'est rien d'autre en dehors de l'être. L'un est tout entier relatif à l'être. Acolyte. De plus, il ne dira jamais que le bien n'est rien d'autre que l'être. Donc il met très nettement un accent différent sur l'un et sur le bien. De plus, l'ousia de chaque chose est une, non par accident. De même, elle est quelque chose qui est un onti. Il y aura donc autant d'espèces de l'un que d'espèces de l'être. Et l'étude du tiesti de ces espèces fera l'objet d'une science générique, de façon générique, une. Ainsi, c'est une science qui étudiera l'identique et le semblable.